Pavillonomane. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Un espace de partage, d'écoute et de réflexion, un vrai terrain de rencontre sonore. Nous sommes en direct depuis le studio et nous vous accompagnons jusqu'à 16h30. Bonjour à nos participants du jour. Alors, on a autour de la table, on a Magali, on a Marianne, on a Michael, on a Pierre-Alain, on a Tissem, joli prénom Tissem, on a Hermine, on a Evelyne, on a Christelle, on a Mel et on a Eliane. Bonjour Eliane.
Bonjour à tous.
Ravi de vous voir avec nous aujourd'hui, si nombreux autour de la table. Alors j'ai dit très joli prénom, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas jolis, hein, je vous rassure. Hein. On a tous de très jolis prénoms. Hein. Aujourd'hui, place aux échanges autour de thèmes choisis par nos invités. Et bien sûr, ne manquez pas notre incontournable rubrique, la ménagerie d'Eliane. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter. Aujourd'hui, on nous a proposé, Magali nous a proposé de parler sur le thème de la passion. Alors, on va donner un micro à Magali. Bonjour Magali.
Bonjour.
Bienvenue. Dites-moi Merci. Un petit peu comment vous est venue l'envie de parler de la passion et de quoi vous avez envie d'échanger et en préambule de nous donner un petit teasing sur ce thème.
Ben, pour moi, la passion est très importante. Et puis la mienne, enfin les miennes sont le dessin, la peinture, le bricolage. Je sais utiliser une visseuse perceuse. Donc.
Alors utiliser une perceuse visseuse, c'est une passion pour vous ?
Non, mais bon, ça fait partie du bricolage.
C'est vrai, la passion du bricolage.
Et puis la gouache, les crayons, la peinture. Dans tout l'art-thérapie, quoi, en fait.
Alors, vous avez cité pas mal de passions qui vous animaient. Si vous deviez en choisir une parmi toutes celles-là qui serait vraiment votre passion préférée, ce serait laquelle ? Ah, ça, c'est une question...
La question qui tue, les animaux.
Les animaux. Alors, pourquoi c'est une passion pour vous, les animaux, Magali ?
Depuis toute petite, j'adore les animaux. J'ai eu cochon d'Inde, lapin... Lapin de ferme, perruche, et puis maintenant mon rêve c'est faire le tour du monde avec un cheval, franche montagne.
Eh ben ça donne envie. Alors, quand on a dit la passion en préambule, quand on a choisi les thèmes, on a vu pas mal de gens qui ont voté pour ce thème, hein, qui ont dit bah « ouais, ça c'est un thème intéressant ». Mais qu'est-ce qui fait que vous ayez eu envie de parler de ça ? Merci en tout cas Magali de nous avoir proposé ce thème-là.
Merci
Je ne sais pas si quelqu'un a envie de rebondir et peut-être de faire part de finalement c'est quoi la passion ? À quoi ça sert avoir une passion ? Qui se lance ? Eliane ?
Une passion, c'est quelque chose qui s'entretient au fil du temps ou à nos envies du moment. Bon, moi, je préfère... Mon animal préféré, ben, c'est le cheval, parce que j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et je suis vraiment passionnée par le travail en liberté. Et puis, faisant partie de la chronique... La ménagerie d'Eliane, je ne peux qu'aimer les animaux et j'en apprends tous les jours à leur sujet.
Ah bah c'est bien. Alors, je ne sais pas si autour de la table, il y en a qui auraient des passions qu'ils ont envie de partager. Mel, on vous écoute.
Oui. Moi, je trouve que, pour rebondir un petit peu, la passion, c'est peut-être aussi un peu ce qui nous anime et ce qui nous donne envie de nous lever le matin. En tout cas, en ce qui me concerne. Ou même ce qui m'apaise au long de mes journées, quand c'est facile ou un peu moins facile. Moi, ma passion serait plutôt la musique, je dirais, la lecture, et puis peut-être aussi un peu tout ce qui a trait à tout ce qui est un peu développement personnel et autres. Mais personnellement, j'aime beaucoup lire des témoignages, des choses comme ça. Puis c'est des choses qui me passionnent aussi de découvrir des vies ou des parcours que voilà, dont je me serais pas douté et qui m'enrichissent.
Ah bah c'est bien. Alors, en même temps que vous décriviez un peu Magali et Mel, quelle était votre passion ? Moi, je suis allé voir un petit peu ce qui se dit sur la passion en termes de définition et j'ai trouvé la passion est une forte inclination ou une forte attirance pour une personne, une activité ou un objet. Elle est définie comme un état affectif et intellectuel puissant qui peut être à la fois une force motivante et un déséquilibre nécessitant beaucoup de temps et d'énergie. Le mot a également du sens, un sens plus ancien lié à la souffrance, comme la passion du Christ. Ah, alors, je vois Evelyne, elle hoche de la tête en disant, bah tiens, je savais pas. Et, alors, après ces premiers échanges qu'on a eus, Evelyne, bonjour.
Bonjour, Jimmy.
Pour vous, ça représente quoi la passion ?
Je pense que c'est, pour rebondir sur ce qu'a dit Mel à l'instant, c'est vraiment quelque chose qui nous anime de l'intérieur, qui nous fait vibrer et puis qui, au fil du temps, évolue. Effectivement, je pense qu'on traverse différentes phases, différents cycles dans une même vie. Et moi, je sais notamment qu'avec mon entrée dans la maternité, dans la parentalité, ma passion pour l'écriture a vraiment flambé, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, mais...
Oui. Merci. Est-ce que la passion est propre à une période de notre vie ou est-ce qu'on a des passions qui sont immuables comme ça depuis tout petit ? Comment ça s'est passé ? Alors, Pierre-Alain, je vous en prie, prenez le micro. Bonjour Pierre-Alain, bienvenue.
Bonjour Jimmy. Moi, la passion, c'est très important. Parce que j'ai commencé tout petit avec mon grand-papa qui m'amenait à Tourbillon voir des matchs de foot. Et après, j'ai aimé le sport, j'ai fait du hockey, du ski, et ça fait passer par beaucoup d'émotions, plusieurs émotions à la fois. Et c'est ce qui m'attire le plus. Se lever sans passion, c'est difficile, je pense.
Oui, ça anime.
Ça anime.
Ça anime, oui. Alors, je voyais Michael... Vous hochiez de la tête aussi, est-ce que vous avez envie de faire part ou pas ? Ce n'est pas obligatoire. Hein. La passion, moi, ça me fait penser au fruit de la passion. Tout le monde va rigoler, mais Jimmy, vous avez la passion pour manger. Oui, en fait, je suis fasciné par la nourriture. Je suis un passionné de la nourriture. J'aime les différents goûts, j'aime manger, j'aime les différentes saveurs qui peuvent comme ça éclater en bouche. J'ai eu beaucoup de passions dans ma vie, mais si j'en citais une qui aujourd'hui m'anime, j'adore découvrir des nouveaux plats exotiques, des plats d'aujourd'hui ou d'antan, peut-être même une ancienne recette de grand-mère. Magali.
Je m'excuse, mais moi, les fruits de la passion, je ne les supporte pas.
Ah, bah voilà.
Vous savez, l'exotisme, je ne supporte pas.
Vous savez, les goûts et les couleurs, c'est propre à tout le monde.
Oui, je suis allergique.
Et vous êtes kiwi allergique, j'allais dire. Non. La passion. Sinon, est-ce que d'autres personnes ont envie d'échanger autour du thème de la passion, de proposer, de parler de leur propre passion, comme Pierre-Alain qui est passionné du foot ? Est-ce qu'il y a des.
Aussi.
Ah, Magali, reprenez le micro, alors.
Passionné aussi. Lausanne est en Coupe d'Europe.
D'ailleurs, il y a eu des grands matchs hein, pour les passionnés de foot. Il y a eu des grands matchs hier à la Ligue des Champions. Vous suivez, parce que vous aviez la passion, Pierre-Alain, si vous voulez bien, quelques minutes encore échanger. Vous aviez la passion de regarder le foot ou de jouer aussi. Vous avez été joueur ?
Alors, les deux. J'ai été joueur jusqu'à l'âge de 22 ans. Jusqu'à l'âge de 22 ans, j'étais joueur. Et depuis là, j'ai plus lâché l'affaire. J'ai toujours été voir des matchs, j'ai toujours suivi. J'étais coach pour les petits qui débutaient. Et c'est toujours un plaisir, ça doit rester un jeu. Ça doit rester... Et souvent, malheureusement... C'est les parents qui mettent leur grain de sable, un peu,
Les terrains. Des fois, autour du terrain, ils se prennent pour les coachs et les joueurs.
Pour les coachs.
C'est vrai. Magali, on vous écoute.
Bon, je tenais juste à rajouter, ma passion, c'est le sport. Parce que mon papa, il a fait les Jeux Olympiques d'Innsbruck, luge de course.
Oh, et puis on ose savoir le classement de notre équipe suisse.
Ah, j'ai oublié de demander.
Ah bah c'est pas grave.
Mais j'ai tout le matos. J'ai le pull en laine, rouge, équipe suisse, j'ai tout le matos encore.
Et est-ce qu'ils vous ont emmené faire des essais aussi ou pas ?
Bobsleigh, j'aurais voulu essayer, mais c'était pas possible. Mais luge de course, je vais tester.
Alors,
c'est une exclusivité, jamais.
C'est une exclusivité que Magali a envie d'essayer la luge de course. Quand on n'est plus passionné, ça arrive des fois de perdre sa passion ou pas ? Je sais pas. Est-ce que c'est une question ouverte ? Est-ce que il y a des fois des gens qui ont perdu leur passion, Mel ?
Mais je pense qu'on la perd pas forcément, tout comme elle naît assez naturellement, je pense qu'après elle reste. Je pensais au fait que souvent ce qui nous passionne, c'est aussi une question de transmission, peut-être des parents justement, ou enfin, on se dit avec nos enfants, moi j'en ai pas mais j'aimerais bien en avoir, je lui apprendrai à faire ça, je l'enverrai faire voir des matchs de foot et tout. Et donc, je pense des fois, oui, peut-être on peut oublier, mais est-ce que ça s'éteint vraiment en nous, la passion ? Je ne suis pas vraiment sûre, je ne crois pas.
Ouais. Alors, c'est un joli mot de fin avant de passer à notre prochaine musique, qui est la toute première d'ailleurs de l'émission, qui s'intitule La Rose. Alors, c'était une dédicace qui était proposée par Hermine, est-ce que quelqu'un se souvient pour qui elle voulait la dédicacer ? Il me semble-t-il que c'était pour sa maman. Donc, on va se quitter quelques instants avec la chanson qui s'intitule La Rose de Bess Midler, en dédicace pour la maman de Hermine.
Dans la ménagerie d'Eliane.
L'éléphant. Il fait partie des mammifères de la famille des éléphantidés. On les appelle aussi les pachydermes. Il existe deux espèces principales, soit l'éléphant d'Asie ou l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Asie pèse dans les 4 tonnes et mesure jusqu'à 3 mètres. En Orient, il est considéré comme un animal sacré en référence à la divinité Ganesh, qui elle-même a une tête d'éléphant. Et comme elle porte dans sa main un plateau de sucreries, les offrandes des hindous sont toujours sucrées. Une autre particularité de ce mammifère est que le mâle a des défenses proéminentes d'environ 1,50 m. Par contre, les femelles ont de petites défenses qui ne dépassent pas leur museau. Ils ont également une dépigmentation de la peau vers les oreilles et la trompe. De ce fait, les braconniers s'attaquent au mâle. Le prix atteint 925 francs le kilo. Quand on sait qu'une défense peut peser de 18 à 79 kilos, cela me laisse songeuse. L'éléphant d'Afrique. Il pèse entre 5 et 8 tonnes. Il mesure environ 4 mètres. Dans la symbolique, il est associé à la mémoire, la longévité, la prospérité et la bienveillance. Il a d'immenses oreilles qui lui permettent aussi de se rafraîchir. Il peut changer de comportement et faire face à de nouveaux défis caractéristiques d'une intelligence complexe. La musculature de sa trompe est dotée de 100 000 à 150 000 muscles. Donc il est normal quand on voit des éléphantaux complètement perdus avec cette trompe qui va dans tous les sens. Et quand il fait chaud, les mères se réunissent et leur donnent de la terre. Mais c'est elles qui le font parce que le bébé, il peut pas. Il peut soulever jusqu'à 350 kilos. Je dis bien soulever, parce qu'au niveau de la poussée, il peut renverser un arbre. Et il vit à peu près 50 à 70 ans. Et le cornac, donc c'est la personne qui s'occupe d'un éléphant en particulier, là pour toute sa vie, d'humain, pas d'éléphant. Et on ne change jamais le cornac. Parce que l'éléphant, il est habitué et il obéit qu'à son cornac. Il a des dents, des incisives supérieures qui sont les défenses et 4 molaires qui se renouvellent tout au long de sa vie. Quelle chance il a! Pour les deux espèces, la gestation dure environ 28 semaines. Quand il naît, l'éléphanto pèse de 90 à 120 kilos. Il va vivre les 2 premières années de sa vie avec sa mère et auprès de ses tantes. À l'âge de 12 ans, les mâles quitteront la troupe pour vivre leur propre vie. Ils forment une famille très unie et c'est la matriarche, donc la femelle la plus âgée, qui guide le troupeau. L'éléphant nage sur de grandes distances, sa trompe lui servant de tuba. Il se déplace sur ses doigts comme le chien et un amas graisseux lui permet de se déplacer en silence et d'amortir les chocs. Il boit entre 70 et 200 litres par jour. Les mâles et les femelles ne vivent pas ensemble et se rejoignent uniquement pour l'accouplement. Voilà.
Merci pour cette belle rubrique, Eliane. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Parce que moi, en parlant de litres d'eau qu'ils buvaient et la chanson d'avant, ça m'a fait penser aux éléphants roses. Mais moi, je pense que là, on les voit pas pour les mêmes raisons. Mais quand vous avez entendu un petit peu, est-ce que vous avez appris déjà des choses sur lesquelles vous étiez étonné ? Alors, je vois les têtes qui disent oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces têtes qui disent oui ?
J'ai l'impression qu'ils vivent un petit peu comme nous, le même genre de durée de vie et puis le même genre de vie sociale. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est ça que je me disais surtout.
Oui, bah c'est vrai que c'est une vie qui ressemble beaucoup aux humains. Mais bon, ils sont un petit peu plus nombreux pour s'occuper des enfants.
Et j'avais entendu dire que, alors, que les éléphants, ils communiquaient par vibration de leurs pattes quand ils marchent. Ils donnent des vibrations, ils communiquent. Je ne sais pas si on l'a abordé dans le thème, parce que j'ai dû...
Alors oui, il y a deux façons de communiquer pour eux, soit par des barrissements en fait, plus ou moins forts, plus ou moins nuancés que les autres éléphants comprennent, et par rapport aux pieds, effectivement, il peut être très silencieux, mais il peut aussi être entendu à des, je sais pas, 30 km peut-être. Donc quand il y a une troupe d'éléphants, un troupeau, ils savent exactement où sont les autres troupeaux, parce qu'ils ne se mélangent pas. Il y a une famille, au départ, les tantes, les bébés, tout ça, mais il n'y a jamais de troupes qui se réunissent. Ce serait source de conflits avec les enfants, enfin les éléphantaux.
Alors, moi, les seuls éléphants que j'ai vus, on parlera voyage tout à l'heure, alors ce n'était pas pendant le voyage, mais c'était au Cirque Cluny. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont... Je sais qu'il y a quelques années en arrière, il y a de moins en moins d'animaux. Hein, dans les cirques, on ne trouve plus les lions, les tigres en cage. Est-ce que il y a toujours... est-ce que déjà quelqu'un est allé au Cirque Cluny ces dernières années? Oui. Est-ce qu'il y a toujours les éléphants qui paradent ou pas?
Non. Non, ça fait, alors, je sais pas combien d'années, mais non, la SPA et je sais pas quoi. Non, c'est pas la SPA, c'est...
Alors peut-être que c'est la Société hypothétique des animaux ou d'autres associations qui ont lutté pour éviter.
Mais ça fait des années qu'il n'y a plus.
Parce que je sais pas qui. Je sais qu'à l'époque, je me souviens, il y avait aussi les balades. On pouvait se mettre dessus et se balader avec les éléphants. Mais j'ai jamais eu l'occasion de voir un éléphant de près. Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion autour de la table de voir un éléphant de près?
Dans les zoos.
Dans les zoos? Ok. À quelle distance?
À 2 mètres.
Ouais, quand même, c'est déjà pas mal imposant, 2 mètres. Ça doit être quand même, ça doit faire peur. Mel? À Bâle, si jamais. Aux autres Bâles, si jamais, vous pouvez aller voir des éléphants et les voyez à 2 mètres, si vous avez de la chance.
Ouais, moi, je me souviens, c'était quoi? Ça devait être dans les années 90. Ils faisaient au CNI, ils faisaient des balades. Ça durait quoi? 5 minutes, hein, pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'en grandissant, après, on se dit qu'ils ont quand même un peu une sale tête, ces pauvres animaux au CNI. Je trouve, moi, c'est plutôt une bonne chose qu'il n'y en ait plus.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous.
C'est sûr qu'ils étaient monotés. Hein.
Eliane.
Oui, quand il y avait le cirque CNI à Lausanne, qui avait encore les éléphants, ils allaient se baigner dans le lac Léman. C'était quelque chose de fantastique.
Ah ouais, alors, ça, je sais pas, j'imagine que ça doit être impressionnant. Christophe, prenez seulement le micro. Il y en a d'autres qui sont là, si jamais vous pouvez les passer. Bonjour Christian, pardon.
Oui, alors moi, le CNI, je l'ai vu assez souvent quand il passait à Aigle. Et oui, j'ai pu caresser des animaux, que ce soit des chevaux, même un éléphant une fois, qui est venu, et puis il avait sa trompe là, qui s'agitait. C'est tout aussi, voilà, juste, moi, il caressait, et puis il vous regardait comme ça, c'était... Ouais, c'était des moments qui étaient vraiment extraordinaires. Vraiment, vraiment.
Impressionnant, hein, la taille, l'envergure que ça peut avoir. C'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. Magali.
Justement, par rapport à la taille, il y a des anecdotes au CFF qu'ils devaient s'arrêter avant les tunnels parce que les trompes dépassaient.
Les trompes dépassaient les tunnels, donc ils devaient passer par ailleurs, alors ?
Non, ils devaient fermer tous les... Je sais pas comment on dit,
les soupirails. Les soupiraux, pardon.
Les soupiraux, voilà.
Ah, pour éviter que la trompe se frotte contre les...
Ça arrachait les trompes.
Ouais. Alors on a déjà pas mal d'anecdotes sur les éléphants. Hein. On a entendu aussi dans votre rubrique, ces défenses. Il y a eu du braconnage pendant des... pas mal d'années. J'imagine que ça continue encore. Hein. Aujourd'hui, l'ivoire reste encore pris pour faire concocter soit des objets ou peut-être pour certains par des vertus. On pourrait dire aussi, comme la corne du rhinocéros, j'avais entendu vertu aphrodisiaque ou autre. Mais ça, c'est quelque chose qui est encore d'actualité, Eliane.
Oui, alors absolument. Dans certains parcs en Afrique ou en Asie, ils coupent carrément la défense de l'éléphant, qui a des propriétés soi-disant, sexuelles, serait peut-être un peu
aphrodisiaque.
Trop. Voilà, aphrodisiaque. Pardon, je ne trouvais pas le mot. Aphrodisiaque, voilà. Et au niveau des éléphants, ça se fait aussi dans les réserves. Ils leur enlèvent les défenses. Parce que pour enlever une défense, il faut tuer l'animal.
Oula, oui.
Il n'y a pas d'autre possibilité, hein. Ça ne va pas à l'autre monde. Alors, pour les protéger, dans beaucoup d'endroits, ils ont fait ça. Et notamment en Asie, il existe beaucoup de sanctuaires pour les éléphants, c'est-à-dire tous ces animaux qui ont été maltraités, qui ont transporté des touristes, et puis ils ont leur dos cassé. Donc, ils n'ont plus aucune défense. C'est dommage parce que c'est très beau un éléphant avec ses défenses.
Oui, vous parliez aussi dans votre rubrique du lien avec les pays en Inde. Hein. Ganesh est un dieu hindou très populaire, reconnaissable à sa tête d'éléphant et à son corps humain. Il est le dieu de la sagesse, de l'apprentissage et est invoqué pour supprimer les obstacles et apporter les bonnes fortunes. Les légendes racontent comment il a reçu sa tête d'éléphant. Donc si vous êtes intéressé à aller voir un petit peu plus, bah, vous pouvez aller voir sur internet finalement l'histoire de ce dieu hindou. Moi, je vous propose qu'on reste un petit peu dans des teintes animalières avec la prochaine chanson de Francis Cabrel qui s'intitule La cabane du pêcheur.
Thank you.
De retour sur les ondes de Pavillon Nomade, pardon, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, Pavillon Nomade vous accompagne jusqu'à 16h30. Bonjour Mel.
Bonjour Jimmy.
Ça fait plaisir de voir un petit peu déjà tous ces beaux échanges qu'on a eus jusqu'à maintenant avec nos deux premiers thèmes. Vous nous avez proposé un thème sur la colère. Hein. Alors un thème qui, je pense, va parler à énormément de personnes. En tout cas, moi, ça me parle déjà énormément. Qu'est-ce qui fait que vous ayez choisi de nous proposer ce thème ?
Mais c'est un thème qui m'habite depuis toujours et qui me pourrit la vie beaucoup, d'une certaine manière. Puis d'un autre côté, il y a certains artistes ou certains textes que j'ai trouvés au fil de mes lectures, de mes écoutes, qui m'ont donné une idée de la colère un petit peu plus positive, peut-être un peu plus naturelle et presque même des fois utile, nécessaire. Et je voulais justement vous parler d'un groupe que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Astéréotypie. Donc je vous ai préparé un petit texte.
Alors c'est très bien d'ailleurs, je profite d'inviter tous les gens qui nous écoutent. Si un jour, comme Mel, vous avez envie de proposer un thème à l'émission Pavillon Nomade pour les jeudis, sachez que nous sommes dès 15h à 15h30, nous préparons l'émission. C'est ouvert à tout le monde. Et vous pouvez venir proposer des thèmes, on les prépare. Vous les préparez et on choisit les thèmes dans lesquels on discute. Donc merci en tout cas Mel d'avoir pris le temps. Ce que je vous propose, c'est que vous nous expliquiez un petit peu le parcours de ce groupe. On écoute ensuite la chanson qui d'ailleurs s'appelle Colère de Astéréotypie. Et une fois que la chanson sera terminée, on fera un petit débat autour finalement sur ce qu'est la colère et puis on verra où ça nous amène.
Très bien. Alors, on connaît bien ces chanteurs, compositeurs, délicieusement déjantés, à l'univers coloré et absurde, comme Philippe Catherine ou encore Didier Vampasse. Mais il y a un groupe actif depuis environ 2010 qui passe entre les gouttes et Dieu sait qu'il mérite d'être connu, à mon avis. Astéréotypie naît en France dans un institut médical lors d'un atelier d'écriture organisé par un éducateur spécialisé dans les troubles du spectre de l'autisme et musicien de surcroît. Ce groupe post-punk est composé notamment de l'incroyable Stanislas Cormon, un des acteurs de Un petit truc en plus. C'était celui qui imitait tout le temps Sarkozy, pour ceux qui ont vu le film. Et ainsi que de la pétillante journaliste Claire Ottaway, qui fait partie de l'émission TV Les Rencontres du Papetin, qui est une super émission sur France TV, mais je ne sais plus exactement sur quelle chaîne. Moi, je trouve qu'il existe dans ce projet une rage salvatrice, un second degré essentiel, et tout ça, ça me transporte de joie. La musique est géniale. C'est, je trouve, un génie artistique qui peut naître de tous les endroits où les hypersensibles font preuve de force et de résilience, et je trouve que c'est bon à savoir. Pour découvrir cette musique atypique, je conseille plusieurs titres. Il y a la chanson 20 euros, qui me fait beaucoup rire, la chanson Le Pacha, ou encore Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Mais nous allons maintenant écouter Colère.
Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, 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 c'est ça qui me met en colère. Parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi. Je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis, les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise, il faut que tu dormes la nuit, il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent « Ha ha ! Ha ha ! Regardez, il fait le fou, il s'excite ! Ha ha ! Il secoue des mains !» Alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou.
Magnifique morceau de Astérotypie qui s'intitule La Colère. Alors si vous voulez découvrir un petit peu plus ce groupe et connaître un peu l'histoire et la genèse, je pense qu'il suffit de taper Astérotypie sur internet, La Colère, et puis vous aurez les informations. Cette chanson m'a pas mis en colère, étonnamment, parce qu'on ne la connaissant pas, je me dis ouais, c'est du punk, ça va être très trash et autres, peut-être que, parce que la colère c'est avant tout une émotion, hein, une émotion suscitée par des fois des émotions qui sont universelles et primaires, hein. Et là non, alors cette musique elle m'a pas mis en colère, au contraire elle m'a suscité quelques questions. D'ailleurs Eliane, vous avez une question à poser.
Tout à fait. Pensez-vous, Mel, que le fait d'être autiste, c'est plutôt un avantage ou un handicap ?
Alors, c'est un peu compliqué pour moi de répondre parce que j'ai pas ce diagnostic-là personnellement. Donc, je voudrais surtout pas dire quelque chose qui puisse heurter des gens qui ont vraiment ce diagnostic-là. Mais moi, je trouve que dans ce cadre-là, de ce cadre artistique, c'est certainement un atout. Et puis, j'imagine que le fait d'avoir réussi à en faire quelque chose d'aussi beau, que moi, je trouve beau, c'est certainement quelque chose, un long travail. Ouais, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas comment ces gens le vivent au quotidien.
Mais le fait de chanter ou d'être musicien, ça leur permet d'évacuer leur colère, vous pensez ?
Ben, franchement, je trouve que ça, oui, ça se ressent. Même quand on regarde un peu des lives, moi j'aimerais beaucoup aller les voir en concert. Quand on regarde des lives, on voit qu'il y a une prestance scénique qui est extraordinaire. Et vraiment, on sent qu'ils ont ça en eux, vraiment.
Ouais. Bah, ça me fait aussi mettre le pied à l'étrier sur finalement, c'est quoi la colère ? J'ai parlé tout à l'heure d'émotion, mais comment elle se manifeste la colère chez vous ? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ? Est-ce que c'est quelque chose de mécanique ? Est-ce que c'est quelque chose qui survient comme ça ? Je ne sais pas. Tissem, bonjour Tissem.
Bonjour Jimmy.
Ça fait plaisir de vous avoir ici.
La première fois pour moi.
C'est la première fois que vous venez. Vous travaillez comme infirmière au pavillon de l'UPA 3. D'ailleurs, qu'on salue. On prend le temps de saluer tous les pavillons qui nous écoutent. S'ils ont pensé à se connecter, en tout cas, on fait déjà une belle dédicace à la forêt. On sait qu'ils ont et ils nous écoutent. Merci à vous. Alors, on va voir comment, finalement, pour vous, c'est quoi la colère quand on vous dit la colère. Et est-ce que vous êtes d'accord de partager avec nous un petit peu son mécanisme, ce que vous savez et surtout vous, comment vous la gérez ?
Écoutez, pour moi, la colère, c'est un peu une réponse naturelle en fait à des situations
complexe qu'on rencontre tous les jours. Voilà ce que je peux dire un peu de, pour moi, ce que c'est que la colère. Je pense que c'est, voilà, c'est une émotion qui nous a, qui nous traverse à des moments différents dans notre vie. Voilà, voilà, on peut être, comment dirais-je, en colère pour des situations plus ou moins graves. Et voilà, après, c'est à chacun de savoir gérer un peu cette émotion qui est aussi difficile hein, pour certains. Après, ça se manifeste sous différentes formes. Hein. Il y en a qui vont crier, pleurer, voilà, qui vont manifester ça de, sous forme voilà, physique. Il y en a, ce sera plutôt voilà, verbal. Voilà, tout dépend en fait comment on arrive à extérioriser un peu cette colère. Et c'est propre à chacun. Voilà, on n'a pas toutes la même manière de l'exprimer, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Puis on n'a pas toutes les mêmes manières de la ressentir. Hein. On peut avoir une augmentation de la fréquence cardiaque et de la respiration. Pour d'autres, ça sera des tensions musculaires hein, ou des serrements de la mâchoire. Pour d'autres, ce sera peut-être d'abord de la transpiration excessive. Et puis, des fois, des sentiments de frustration, d'irritabilité et qui engendrent des fois des colères impulsives hein, et qui vont, des fois, comme vous l'avez dit, avoir des fois des propos qu'on pourrait regretter ou alors des comportements qu'on pourrait s'auto-infliger ou à autrui, mais comment on pourrait, si on devait se dire, bah, qu'est-ce qui pourrait permettre de pouvoir diminuer ou essayer d'atténuer ce sentiment de colère qui, vous avez justement dit, des fois, il est légitime. Hein. Il y a des colères sur lesquelles, quand on est violenté, quand on a un sentiment fort d'injustice, mais qui est avéré, la colère est légitime. De là à passer à l'acte sur soi ou autre, ça c'est autre chose. Mais comment on peut gérer cette colère? Qu'est-ce qui permettrait de pouvoir diminuer? Evelyne, bonjour Evelyne. Evelyne, vous êtes infirmière à l'UPA4 aussi. Merci d'être présent pour la première fois à Pavillon Nomade. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Comme le disait la collègue, la colère, c'est une émotion forte, vive, qui des fois est légitime en fonction des situations. Et moi, ce sera peut-être plutôt une anecdote qui ferait beaucoup rire mon mari, je pense. Mais les rares fois où je me sens en colère, je vais aller faire du sport. Donc voilà, je ne suis pas une grande sportive. Mais si c'est vraiment de ressentir la colère, ben, je pense que je vais aller faire du jogging alors que je ne suis pas quelqu'un qui fait du sport. Mais ça va m'aider à vider la tête et vider cette énergie négative, on pourrait dire... par un biais qui me paraît acceptable. Justement.
Vous courez souvent?
Ben non, du coup, pas vraiment.
Alors c'est vrai que la décharge, déjà peut-être une des solutions techniques, hein, parce que tout ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas pour les autres, mais ça peut passer par aller courir, marcher, un moment où on décharge, un moment où on peut parler aussi de défocalisation, hein, ce terme qui est très utilisé dans le jargon professionnel, défocaliser, c'est arriver à avoir cette capacité, à un moment en tout cas, de penser à autre chose, de se changer les idées, hein, si on veut vulgariser un petit peu ce terme. Mais qu'est-ce qui peut fonctionner encore d'autre? Eliane, après on vous donnera la parole, Christian.
Moi je pense que ce qui fonctionne bien, c'est que par exemple, si on est en conflit avec une personne... c'est de l'écouter, hurler ou crier et ne rien dire. Et ensuite, on dit ce qu'on veut dire, mais très, très calmement. Parce qu'il m'est arrivé de partir dans des folies de colère avec quelqu'un et après coup, de me dire « Non, mais t'aurais pas dû faire comme ça, mais ça va ou bien. » Donc, j'essaie vraiment de la maîtriser pour me calmer et calmer l'autre.
Merci. Christian.
Alors moi, la toute première fois où je me suis vraiment, vraiment mis en colère, j'avais 16 ans. Et puis, il y avait le couple de mon oncle et de ma tante qui battaient vraiment de l'aile. Et on avait accueilli chez ma grand-maman ma tante. Et puis un jour, mon oncle est arrivé... Et puis il dit, je veux voir ta tante, je veux voir Lucie. Puis tu veux voir Lucie, pourquoi? Ben je dois lui parler. Oh, bon. Bon, je lui demandais si elle est d'accord. Et puis elle était dans le lit, ouais, laisse-le venir. Et puis bon, moi je me suis méfié un peu parce qu'il tanguait la moindre. Et il rentre dans la chambre, tout d'un coup, j'entends ma tante qui commence à crier. Alors du coup, je rentre dans la tente, dans la chambre, je vois mon oncle qui avait les deux mains sur le cou de ma tante. Alors, il faisait plus de 100 kilos, moi à peine 70. Mais je peux vous dire qu'il n'a pas touché les pieds par terre. Je l'ai levé, mis dehors. Il était complètement bourré. Et je lui ai dit, maintenant, tu sors, tu descends. Bon. Il commence à aller vers la porte et il vient, puis il commence à m'insulter. Alors, plutôt que moi, parce que j'avais fait de la boxe, il en collait bien une au milieu de la figure. J'ai pris sur la porte et j'ai donné mon coup de poing dans la porte. Assez fort pour que mes nids soient imprimés dans la porte. Et là, il a compris. Il est descendu et voilà. Alors maintenant, quand je suis vraiment en colère, moi, ce que je fais, je vais m'isoler dans un coin. Et j'écoute la musique que j'aime. Ça me détend, ça me calme. Et puis voilà. Et puis ça, c'est sûr, c'est celui qui touche une femme. Un homme qui touche une femme n'est pas un homme.
Alors, vous avez raison de mettre en évidence ces deux éléments. Hein. Je rappelle qu'on ne va pas se mettre en danger, hein, mais aux yeux de la loi en Suisse, et j'imagine dans de nombreux pays européens, je ne connais pas tous les textes de loi, mais non-assistance à personne en danger peut être punissable et poursuivie de peines pénales, hein, financières ou autres. Hein. Mais alors, au-delà de quelqu'un qui est en danger et qu'on doit porter secours, vous avez en tout cas eu un moment de citer en tout cas peut-être une proposition qui permet en tout cas de calmer. C'est déjà avant tout de savoir comment on définit sa propre colère, comment elle fonctionne, quels sont les mécanismes. Comme on a dit tout à l'heure, c'est différent chez chacun. Mais quand on sait les reconnaître, on se dit « oulala, là je sens que si je dépasse un certain seuil, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de crier, de menacer, gueuler ». Mais vous avez dit, une des tips qu'on pourrait dire, c'est de s'isoler. Je pense que ça, c'est déjà un bon moyen pour arriver à refaire descendre la pression. Parce que sinon, vous vous retrouvez un peu ce qu'on appelle la montée en symétrie, hein. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, en colère, puis vous commencez à discuter, à essayer de convaincre ou d'essayer de régler des choses, bah, y a comme ça une montée en alternance qui se fait. Et au bout d'un moment, bah, quand il n'y a plus la dialectique, c'est la discussion avec l'autre, tant qu'on est en communication. Et quand il n'y a pas, parce qu'on est pris par ça, par ces émotions-là, bah, souvent on en vient à des mots, à des propos. Ça. Une des solutions pourrait effectivement être de dire, je m'isole. Vous l'avez cumulé à la musique, c'est combiné, mais déjà de s'isoler, de partir un moment, de souffler un peu, de respirer, et puis voilà, de laisser descendre cette tension, puis de se dire, ok, maintenant je ne fuis pas, je ne suis pas dans le mécanisme de fuite, et là, maintenant que je suis apaisé, est-ce que je suis capable de revenir vers l'autre pour pouvoir échanger et discuter ? Ça peut être une solution qui est intéressante. Pierre-Alain, vous, la colère, comment ça se manifeste chez vous, si vous êtes d'accord d'échanger avec nous ? Et surtout, est-ce que vous avez peut-être aussi des petits tips comme ça qui permettraient à nos auditeurs ou aux participants aujourd'hui de pouvoir se dire, bah, tiens, ça, je ne savais pas. Alors, si on connaît, tant mieux. Et si on ne sait pas, bah, on aura peut-être un petit truc en plus dans notre sac à dos.
Alors, moi, la colère, c'est un gros problème parce que on peut dire des choses sur le moment très, très violente. Et les paroles sont plus dures des fois qu'un coup. Et maintenant, j'essaie d'éviter de partir de... Enfin, j'ai dit des choses qui étaient sur le moment qui étaient pas adaptées. Mmh. Sur le moment, c'est difficile.
C'est vrai.
Ah, c'est difficile à agir.
Eliane ?
Et vous, Jimmy ?
Alors, moi ? Alors, je suis un faux calme, en fait. Je suis sûr que mes enfants et mon épouse qui... qui nous écoutent ou qui réécouteront l'émission disent mais moi en fait je suis un colérique, je suis comme ça, c'est j'ai appris à gérer hein, avec le temps. C'est pas on pourrait dire que c'est un mécanisme inné comme la peur hein. C'est un mécanisme de protection hein, la peur et la colère. On se sent acculé, on se sent en danger, donc on a un mécanisme de réaction défensive. Mais j'ai dû apprendre à gérer mes colères hein. Moi je pouvais m'emballer très vite pour rien. Alors après j'ai essayé hein, pendant des années en essayant de me calmer et ça c'est pour nos auditeurs et auditrices c'est pas la meilleure des solutions hein, mais voilà on fait tous au mieux de son parcours. Moi j'ai fumé pendant des années parce que le THC la partie on pourrait dire hypocalmante, hyporelaxante me permettait d'être en tension. Alors malheureusement j'ai appris avec le temps et avec expérience qu'il y a d'autres effets négatifs psychoactifs, psychotropes qui me rendaient par moments aussi plus tendu. Mais c'est vrai que j'ai dû apprendre à gérer cette colère. Moi, aujourd'hui, encore maintenant, hein, j'ai 47 ans, il y a des moments où je me dis, bah tiens, les tips que je donne dans les accompagnements que je fais aux bénéficiaires en soins, j'essaye aussi des fois de me dire, bah tiens, Jim, comment tu vas gérer toi ? Moi, la meilleure des choses que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est m'isoler. Ça, c'est une des règles que je fais. Et puis, de faire du sport. Hein, le sport est une des charges. On a aussi, d'ailleurs, une approche ici. Hein. On a un sac de frappe hein, qui permet aussi de pouvoir, dans ces moments intenses où on n'arrive pas à relâcher, de pouvoir aller taper un peu contre un sac de frappe. Donc voilà, moi, un petit peu, mes techniques que j'ai, c'est de m'isoler, de faire une activité un peu physique et sinon bah c'est déjà aussi et j'ai appris avec le temps à apprendre à pardonner. Je pense qu'apprendre à pardonner à se pardonner à soi-même, ça permet aussi un moment de baisser les tensions. Alors c'est pas magique, mais je sais que on gagne en maturité. J'ai encore de la maturité à gagner, mais oui. Et vous, Eliane?
Vous verrez à mon âge quelle sagesse vous allez accumuler.
Oui, merci, Evelyne.
Moi, j'avais juste envie de rebondir sur ce que vous disiez avant, Pierre-Alain. Je trouve très juste le fait que durant si on rentre dans un accès de colère en face de quelqu'un, ben, les mots, finalement, peuvent être très blessants. Et je pense que, justement, les mots ont de l'importance et ils peuvent être, en fait, soit des baumes réconfortants, soit, finalement, des couteaux acérés. Et on peut faire beaucoup de mal à quelqu'un de par des paroles, même si les gestes ne sont pas acceptables non plus. Donc voilà, juste souligner l'importance des mots, je pense, et puis ben, peut-être quand on regrette certaines paroles, ben, de pouvoir aller s'excuser après auprès de la personne qu'on aurait pu blesser.
Oui, mais vous avez raison, les mots sont importants. D'ailleurs, les mots, dans des stratégies à long terme, ça peut être aussi exprimer ses limites, hein. Apprendre à dire non, à exprimer ses craintes, c'est aussi une manière de pouvoir gérer peut-être aussi sa colère, mais aussi bah, quand on est face à des gens qui ont des comportements proches, hein, ça peut être des enfants, ça peut être son conjoint, sa conjointe, un frère, une sœur, n'importe qui de la famille, bah, des fois aussi d'exprimer ses limites et de dire non, là je n'accepte pas quand tu m'agresses ou quand tu me menaces comme ça, quand tu te mets en colère pour rien, des fois ça peut permettre en tout cas de travailler. Et puis surtout pour nos auditeurs qui nous écoutent, ne restez pas seul quand vous avez des difficultés de gestion émotionnelle, de l'impulsivité qui vous met à avoir peut-être des moments, des difficultés à gérer les mots ou les actes, c'est de demander de l'aide. Hein. Il faut ne pas hésiter à solliciter le soutien quand on ne gère plus ses émotions parce qu'on doit apprendre. Alors, il y a des groupes qui sont proposés sur au CCPP, c'est les centres de compétences de psychothérapie psychiatrique dans le Valais, gestion des émotions. Mais une fois de plus, hein, une émotion, c'est naturel. Mais quand on n'a pas eu les modèles, parce que là aussi, hein, on pourrait se dire que quand on a eu un modèle dans sa vie, ses parents ou les pères, les représentants autour de nous, et puis que finalement, quand on n'est pas d'accord, on apprend qu'il faut crier pour gérer, bah c'est clair qu'on va reproduire. Et ce n'est pas souvent et facile de changer ces mécanismes de fonctionnement, mais ce n'est pas impossible. Hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment retenir, c'est faire du sport. Hein. Ça a été cité plusieurs fois. Et aussi, écouter la musique, hein, parce que quel effet ça a sur vous ? La musique, c'est apaisant, Mel, ou pas ?
Ça peut aussi être un excitant. Et la musique, pour moi, ça s'accompagne souvent, malheureusement, de substances. Donc, ouais, je ne sais pas. Mais je pense qu'un morceau comme celui qu'on a écouté tout à l'heure, c'est plutôt un peu, comment dire, un peu, ça m'exorcise un peu. Donc, ça fait du bien, oui. Mais oui, ça peut être un peu excitant, la musique, malheureusement.
Mais c'est vrai, on parle de mise en transe. Hein. Il y a des musiques qui nous mettent en transe, alors qu'ils peuvent nous mettre en transe bénéfique, mais des fois, ça peut être aussi nous mettre à des rythmes, à des tempos. Alors si, en plus, on est en colère ou on est moins bien et puis qu'on se dit ah bah là je vais aller écouter de la musique un peu que j'aime bien, du heavy metal, peut-être que ça va augmenter la fréquence cardiaque, peut-être que ça va augmenter d'autres manifestations physiologiques qui font qu'on aura plus de peine à redescendre. Alors c'est vrai que si on est des fans de heavy metal et que on a la musique, va peut-être pas aider, quoique sait-on jamais. Christian, avant de partir, vous étiez en train de dire oui et non.
Bon, ça, c'est sûr. Il y a des groupes de heavy metal qui sont vraiment pas géniaux, rien que par les textes. Mais il y en a d'autres qui font des slows, des musiques, mais qui vous apaisent. Mais c'est juste incroyable.
Mais vous avez raison, Christian. Vous savez que pour moi, alors peut-être pour les plus jeunes qui nous écoutent ou ceux qui n'ont pas connu ces générations-là, hein, mais les plus beaux slows dans les années 75 à 2000, ce sont les groupes de hard rock et heavy metal qui nous les ont proposés. Hein. Alors, je vois Julien qui me regarde avec un petit sourire, mais moi, j'entendais des chansons comme Europe ou autre. On a Still Loving You, qui est un morceau qui est juste incroyable. Hein. Alors, je pense que ça doit remémorer chez les gens les booms. Ça n'existe plus, les booms, aujourd'hui. Mais à l'époque, on attendait tous le slow du groupe de hard rock pour pouvoir essayer de danser, moi, avec un balai, les copains avec les copines. Mais bon, voilà, ma foi, c'est comme ça. En tout cas, on arrive gentiment à la fin de notre émission. Hein. Notre voyage radiophonique s'achève doucement. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités du jour de leurs mots, leurs émotions, leur partage. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade, la radio follement normale où les micros dansent au rythme des pensées. On se quitte en musique avec une dédicace proposée par Magali, qui est une dédicace pour Karima Ibrir. Et la chanson s'appelle « Vivo per lei » de Andrea Botticelli.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte,